cœur. T'es déshonneur. T'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez, hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue.
Bonsoir, c'est Onde Noire, une émission sur l'actualité du polar, présentée ben, comme depuis un moment par la Noiraude.
Voilà, ben aujourd'hui pour la première émission de l'année, on va commencer
par vous présenter nos meilleurs vœux bien noirs, et ça risque de bien se passer, bien noir cette année, effectivement.
Oui, puis si ça continue comme ça, c'est bien parti, mais enfin, on vous espère plein de petits bonheurs très égoïstes et très personnels, et plein de jolis coins de soleil dans votre vie, mais bon, c'est mal barré, hein, bon, allez, on reste optimiste. Et puis, comme on a pris l'habitude d'interviewer un des auteurs que nous apprécions, eh bien, on va, pour une fois, passer notre générique en entier. Jacques, je vais laisser le présenter de manière à pouvoir le contacter au téléphone. Et ensuite, nous aurons Philippe Carrez en direct, j'espère, tout du
donc,
moins.
Donc, notre générique, c'est un morceau de Dr. Fox. Dans la musique a été écrit par Dr. Phil Good. Les paroles par, rappelle-moi...
Jean-Hugues Opel.
Les paroles par Jean-Hugues Opel. Le morceau s'appelle En garde à vue.
Tard, hier au soir, t'as rencontré les flicards.
Voilà, donc Dr. Fox, et par un enchaînement très subtil, normalement Philippe Carrez à l'antenne. Bonsoir Philippe Carrez.
Oui, bonsoir.
Tout va bien, ça marche bien. D'abord, merci beaucoup de nous rejoindre.
Ouais.
Et puis, on va parler un petit peu d'une actualité très riche. Alors, le dernier livre sorti, c'est Place aux huiles,
ouais.
À les cahiers du Sud,
ouais, cahiers,
des
ouais.
dessins, des ouais. textes. Alors d'abord, pour ceux qui ne sont pas marseillais, Place aux huiles, il y a plein de jeux de mots dans un seul titre. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ça commence assez dense, oui, effectivement. En fait, la Place aux huiles, c'est une place qui est, c'est le nom d'une place qui est à Marseille, qui est en fait le quai qui est en face de la mairie de Marseille. Donc la Place aux huiles, en fait, est en face de l'endroit où, effectivement, il y a les vraies huiles de Marseille. Et Place aux huiles, en fait, c'est un recueil de... C'est surtout un recueil de dessins, en fait, puisqu'en fait, c'est vrai que j'écris des romans, mais je fais aussi un petit peu de dessins de presse. Et Place aux huiles, c'est un recueil de dessins qui m'a permis de compiler entre 100 et 150 dessins de presse que j'ai fait depuis une dizaine d'années, et qui sont essentiellement des dessins tournés autour de les politiques et comment ils fonctionnent. Et donc c'est un peu acide, mais c'est jamais très méchant.
Non, jamais très méchant, mais c'est vraiment très acide. Alors il y a quelques textes aussi.
Ouais, il y a quelques inédits, ouais, mais très courts. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai profité de ce recueil de dessins pour mettre des... En fait... des petits textes qui correspondent un peu au dessin, c'est-à-dire qu'en fait c'est des espèces de coups de gueule sur des moments d'actualité ou sur des événements qui se sont passés. Donc les petits textes sont très très courts et la lecture des textes se fait à peu près aussi facilement que la lecture des dessins, quoi.
Et puis la lecture de ces textes, je trouve qu'ils font énormément de bien. Tout à l'heure, après l'interview, j'aurai le temps de lire un passage de I Had a Dream.
Ouais.
J'ai fait sans l'accent, hein, ni marseillais
ouais,
ni anglais.
Non, mais c'est bien quand même.
Merci, hein, c'est gentil.
C'est quand même
et je trouve que ça va correspondre. Je sais qu'il y a des tas d'auditeurs, ça va résonner chez eux parce que je pense qu'ils ont exactement la même colère et la même mêmes idées. Ça va leur faire très plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui écrit ça et qui le publie.
Ah ben bah c'est bien.
C'est vous qui avez proposé à les Cahiers du Sud ou c'est eux qui vous ont demandé? C'est une compilation donc de plein d'années de petits dessins,
ouais,
c'est ça?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaille. En fait, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais des dessins de presse. Bon, j'ai travaillé pour pas mal de petits journaux. Il y avait un journal, entre autres, à Marseille qui s'appelait Le Pavé, qui a existé jusqu'à il y a 2 ou 3 ans et qui a fait faillite parce que, évidemment, tous les journaux qui sont un peu hors normes ont beaucoup de mal à survivre. Mmh. Il y a aussi quelques dessins qui sont parus dans Marseille Hebdo, dans le journal de la Chaume qui s'appelle Le Vecchia. Il y a eu aussi un ou deux dessins dans la Marseillaise. Enfin bon, disons que c'est quelques dessins qui ont été publiés comme dessins de presse. Et en fait, l'idée, elle est venue de les cahiers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dessiner beaucoup. C'est-à-dire que je sais que dans les réunions ou quand même
dans les festivals,
dans les trucs comme ça, c'est vrai que j'ai plus, je raconte plus facilement finalement mes impressions avec un petit dessin que en racontant des choses. Donc ce qui fait que les gens de Cahiers du Sud savaient que j'avais ce petit talent-là. Ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un recueil, une compilation des dessins que tu as fait? Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en retrouvant tous ces dessins, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait pas mal qui étaient d'une vraie actualité, alors que c'est des dessins qui sont relativement vieux, quoi. Par exemple, il y a toute une série de dessins sur la parité.
Oui,
qui sont des
effectivement,
dessins
des
dessins que j'ai fait il y a 4-5 ans.
Même un souteneur qui parle de la parité.
Voilà,
c'est
il y a même un souteneur qui dit qu'est parité, moi j'ai que des filles sur le trottoir.
Ouais, franchement.
Voilà, et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, tous ces dessins ont une vraie actualité, c'est-à-dire qu'en fait, les errances des uns et l'arrogance des autres n'a pas changé depuis 5 ou même depuis plus longtemps que ça.
Oh, depuis qu'on parle de politique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, effectivement. Mais.
Et si on dit que les dessins ont un petit air à ceux de Reiser, ça vous dérange ou ça
Pas du tout, non. C'est vrai que bon, ça a été un de mes pas un de mes modèles parce qu'en fait j'ai jamais vraiment appris, mais c'est vrai que ça a été une des personnalités du dessin qui m'a énormément marqué il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que mon trait ressemble un peu à celui de Reiser dans la mesure où en fait moi je fignole pas, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus un trait qui donne une idée qu'un dessin chiadé, quoi. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en fait par exemple j'ai jamais fait de bande dessinée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le truc, c'est qu'en fait, dessiner, j'ai jamais appris, vraiment. Et c'est quelque chose qui se fait d'instinct, et c'est quelque chose qui se fait plus sur un coup de... C'est presque plus des coups de colère qui... C'est un peu comme l'écriture automatique, quoi.
On a l'impression que c'est...
Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas vraiment de méthode. Donc, en fait, je dessine. Et ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'il y a quelques dessins que je voulais refaire pour ce recueil de dessins, parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas trop dans le trait. Et en fait, je suis incapable de refaire deux fois le même dessin.
Il faut donc de nouvelles colères. Mais voilà, je suis sûr qu'il y en aura plein cette année, donc il n'y aura pas de problème. Et puis c'est vrai que les bulles, à elles seules, permettent la plupart du temps d'expliciter. C'est vrai si le
Absolument.
Trait est un peu. C'est vrai que le contenu du texte est largement aussi important. Donc, place aux huiles, on a placé le texte donc, et les dessins à Marseille, en face de la mairie.
Ouais.
Donc, mais on sait bien, bon, c'est vrai que ça gratigne beaucoup les hommes politiques marseillais, mais il n'y a pas qu'à Marseille.
Mais il n'y a pas qu'à Marseille, en fait, c'est ça, c'est beaucoup plus général que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, c'est pas contre la municipalité actuelle ou contre, je veux dire, tout le monde en prend plein son grade, et donc c'est bien, quoi. Il y a tout un chapitre sur le Parti Socialiste, par exemple, qui est assez gratiné.
Oui, c'est
et
pas
ce,
mal,
c'est,
oui.
Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai eu des réactions, des hommes politiques qui se sont éclatés. C'est-à-dire que j'ai eu des réactions de... Par exemple, j'ai reçu un petit mot très gentil de Renaud Muselier, que je connais par ailleurs.
Et pourtant, qu'il y en a une très, très gratinée dans le sien.
Ouais,
hein,
mais ça fait... Lui, il s'est éclaté, quoi.
Portefeuille...
Ça l'a fait rigoler, quoi. De la même manière que j'ai eu aussi un coup de fil super sympa de Michel Pesé, que je connais bien aussi, et qui est... En fait, je pense que ce qui leur plaît bien, c'est que c'est un regard effectivement un peu acide,
mais très tendre aussi.
Mais ouais, voilà, c'est pas méchant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'attaque pas comme un malade. Mais par contre, c'est vrai que ces dessins-là permettent aussi quelquefois de remettre un peu les pendules à l'heure, quoi. C'est-à-dire que ça permet en un coup de trait de faire un constat sur une situation qui est ce qu'elle est, qui est pas forcément finalement très drôle, quoi.
Alors justement, on a quand même lancé le mot qui des fois peut vous mettre en colère, mais dont on ne peut pas se passer quand on parle de tout ce que vous faites, et Dieu sait s'il y a des choses que vous faites, c'est Marseille. Et je viens de lire dans une de vos interviews sur Internet, vous dites que c'est Marseille qui vous a poussé à écrire.
Oui, absolument.
Pourquoi ?
Ben, simplement, c'est Marseille qui m'a poussé à écrire, parce qu'en fait, c'est un univers, donc c'est l'univers dans lequel moi je vis depuis toujours. Bon, il y a un passage de 4 ans sur Paris où j'ai fait mes études de cinéma. Mais après, je suis revenu m'installer à Marseille. En fait, j'ai fait le pari, il y a une trentaine d'années, de suivre une carrière professionnelle normale à Marseille, ce qui était un pari un peu fou. J'y suis à peu près arrivé. Bon, ça a été beaucoup plus long que si j'étais resté à Paris. Et il se trouve que donc Marseille, en fait, c'est un sujet qui me passionne. C'est-à-dire que la ville est un univers absolument passionnant. Et il se trouve que sur cette ville, au moment où je me suis mis à écrire, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de littérature, En plus, la ville était un peu sinistrée au niveau de l'image. Les gens étaient complètement négatifs par rapport à cette ville.
Et en fait, c'est Marseille une ville où on n'avait pas du tout envie d'y venir,
voilà,
ni en vacances.
C'était une ville qui n'était pas du tout à la mode. C'était une ville où les gens faisaient une espèce de paranoïa totale sur « on en est loin de tout, on est laid, on n'en vit pas comme les autres et tout le monde nous en veut ». Enfin, c'était terrible, quoi. Et il se trouve qu'en fait, il n'y avait aucun témoignage écrit sur la réalité quotidienne de cette ville. Et mon pro- premier roman, en fait, c'était plus un besoin de témoignage sur ce qu'était la réalité à tous les niveaux, hein, au niveau sociologique, au niveau du parler, au niveau des comportements. Et donc, du coup, je me suis mis à écrire parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était peut-être le bon moyen pour raconter cette ville. C'est-à-dire qu'en fait, cette ville que je n'arrivais pas à raconter en images et en sons, puisqu'en fait, mon métier, c'est quand même la réalisation au départ, eh bien, j'ai trouvé que peut-être que le moyen de l'écriture était peut-être le moyen le plus pertinent pour arriver à raconter cette ville.
Et alors, est-ce que le côté polar, puisque vos premiers romans ont tous, enfin, ça continue d'ailleurs, on va parler bientôt des Veuves Gigognes, mais le premier, si je ne m'abuse, c'est Filet Garni.
Ouais.
Et donc, c'était polar, c'était ce qui convenait comme genre littéraire à ce que vous aviez envie d'écrire sur Marseille?
Ben, il se trouve que le problème, voilà, c'est ça, c'est que quand on commence à écrire sur cette ville, il y a un moment où ça bascule dans le noir, forcément. C'est-à-dire que la ville est telle que, je veux dire, Marseille est une ville qui n'est pas en très bonne santé économique et toujours pas. C'est une ville qui est très contrastée. C'est une ville où, en fait, les communautés les communautés cohabitent, mais c'est pas vraiment l'espèce de melting pot chaleureux que certains ont bien voulu faire croire que c'était.
Oui, ils ne brûlent pas de voitures, n'est-ce pas? C'est très important.
Bah, ils brûlent pas de voitures parce qu'en fait, comme ils ont acheté à crédit et qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder, puis qu'en plus de ça, il n'y a pas de bus, ils brûlent les voitures, ils ne peuvent plus aller en ville.
Donc c'était le moment de la grève, donc.
En fait, ici, on brûle pas les voitures parce qu'on est très pragmatique, c'est tout. Je veux dire, comme les transports en commun ne marchent pas,
c'est déjà une bonne chose, ceci dit, d'être pragmatique.
C'est déjà pas mal. C'est-à-dire, c'est une preuve de bon sens.
Il y a côtés plus au sud où on a pire, hein, mais bon, on va pas trop en parler ce soir.
Voilà. Et donc, en fait, c'est que quand on commence à écrire sur Marseille, il y a un moment où ça devient de la littérature noire. Et il se trouve aussi que l'autre facteur qui a fait que je me suis retrouvé catalogué comme auteur de romans polars, c'est qu'en fait, moi, je suis édité essentiellement chez Fleuve Noir, qui est un éditeur de polars, quoi. Donc voilà. Mais quand on regarde, en fait, tout ce que j'ai écrit, bon, là, aujourd'hui, j'en suis à mon 14e roman pour adultes. Sur les 14 romans, il y en a bien 7 ou 8 qui pourraient très bien être dans des collections de romans pas traditionnels, mais c'est plus du roman que du polar, quoi.
Oui, quoique les polars peuvent aussi être d'excellents romans, donc ça
absolument,
convient
bien. Absolument, mais c'est pas du tout, enfin, je veux dire, c'est pas, comment dire...
Péjoratif.
C'est pas péjoratif du tout, mais simplement, ce qui est marrant, c'est cette espèce de besoin de cataloguer les gens, quoi.
Ah oui, tout à fait, mais c'est vrai que le côté polar, nous qui nous intéressons donc à cette frange de la littérature, son côté un peu jubilatoire, son côté qui s'affranchit des règles, c'est quelque chose qui me semble bien vous convenir aussi.
Absolument, oui, c'est pour ça. Et donc moi je trouve que dans cet univers-là, moi je suis très bien, c'est-à-dire que c'est vrai que je m'y retrouve totalement. Dans le roman noir, c'est vraiment un truc qui me... En plus, moi ce qui me plaît bien, c'est que la première collection par exemple dans laquelle j'ai été édité, qui était une petite collection de chez Fleuve Noir qui s'appelait la collection Crime, je crois, quelque chose comme ça, c'était des romans de poche, c'est-à-dire qu'en fait c'était une collection de petits romans qui étaient des romans à 50 francs à l'époque. Et le fait d'être dans une littérature populaire avec un format et un prix tout public, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de démarrer avec, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, maintenant mes romans sont dans des grands formats.
Bah, malheureusement, la petite collection de Fleuve Noir n'existe plus.
Et malheureusement, la petite collection de Fleuve Noir n'existe plus depuis 5-6 ans. Et ce qui est bien dommage, parce que c'était une collection c'est une collection qui a permis à plein de gens de démarrer, quoi. Il y a Marcus Malt a démarré avec ça. Comment s'appelle-t-il?
Il y en a quelques-uns, c'est un paquet, Guy de Novette.
On est un paquet, Quadrupani, enfin, il n'y a pas démarré avec ça, mais ça, on était quelques-uns à écrire dans cette collection, et c'est vrai que c'est un peu dommage que cette collection ait disparu. Et c'est vrai que maintenant, Fleuve Noir
plus que ce qu'ils appellent les moyens formats.
Voilà.
Mais bon, c'est vrai qu'apparemment, au niveau commercial, au niveau couverture...
Alors c'est vrai qu'il y a une politique maintenant qui fait que les romans qui sortent en grand format ou en moyen format ressortent en poche un an et demi après. Donc c'est un moyen pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent de pouvoir quand même avoir accès à ces livres, donc c'est pas mal.
Ça, c'est une bonne chose.
Mais c'est vrai que le fait de démarrer dans une collection de poche, qui est une collection vraiment tout public avec un prix très bas, moi ça me plaisait bien, quoi.
Bah, de toute façon, là maintenant, on passe à la grande collection. Justement, on va passer aux Veuves Gigognes.
Ouais.
Donc, les Veuves Gigognes, je ne sais pas si on va pouvoir expliquer vraiment tout le titre parce que c'est tellement riche.
Ouais.
Mais alors, justement, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de parler de Marseille depuis tout à l'heure.
Ouais.
Et là, tout commence à Marseille, effectivement.
Ouais.
Mais on va faire un petit peu un tour de France avec deux protagonistes, j'ose pas dire héros parce qu'ils sont parfois un petit peu pitoyables.
Ouais.
Alors, le premier, c'est Lucas Rosarian.
Ouais, qu'on a déjà vu.
On l'a déjà vu, c'est un flic.
Roman. En fait, Lucas Rosarian, c'est un personnage que j'avais inventé pour un roman qui s'appelle une petite bière pour la route, qui est un roman en fait que j'ai écrit il y a assez longtemps, que j'ai écrit en 97 et qui n'est sorti qu'en 2000. qui est un roman qui se passe entièrement à Marseille. En fait, Lucas Rosarian, c'est un personnage qui appartient à la communauté arménienne de Marseille, qui est très marseillais, qui est un fonctionnaire tranquille disons que c'est un marseillais tout à fait moyen. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'est que son regard sur le monde est un regard qui est très distancé, et ça me plaît bien, quoi.
Voilà. Et puis il est affublé d'une mer, on va dire, typiquement méditerranéenne.
Absolument.
C'est-à-dire qui a une grande importance au début du roman.
Voilà. C'est-à-dire que c'est effectivement sa mère, en fait, qui est donc une arménienne. Mais je veux dire, moi, j'ai une mère italienne, c'est la même. J'ai des copains qui sont des copains.
Qui ont des mères juives, c'est pas.
Des mères juives, c'est pareil. Je veux dire, la mer méditerranéenne, c'est quelque chose de très envahissant, on va dire. Et donc effectivement, Lucas Rosarian a une mère qui est très envahissante, donc qui l'a complètement phagocyté comme beaucoup de mères méditerranéennes. Et il se trouve qu'en fait, la mère de Lucas Rosarian, quand elle était jeune, a fauté avec un type qui est après devenu député. Et en fait, c'est le démarrage de l'histoire. C'est-à-dire que un jour, Lucas Rosarian reçoit chez lui la visite d'un type qui est un espèce de fin de race.
Alors, il faut quand même me laisser le plaisir de dire son nom, parce que c'est pas souvent que je prononce des mots comme ça. Donc, Jean-Marie Villemain de Saint-Chamond.
Voilà, c'est lui.
Voilà, c'est lui.
Lui-même. Et donc Jean-Marie, ce pauvre Jean-Marie qui est une espèce de ouais, c'est un peu fin de race, c'est un type qui a 35 ans qui est.
Ah oui, ça c'est vrai que génétiquement il est un petit peu dégénéré, ce brave homme, hein.
Ben, il a des problèmes. Alors lui aussi a des problèmes avec sa mère, évidemment, qui n'est pas méditerranéenne, mais qui est aussi assez
casse-couille.
Qui est assez casse-couille, assez présente dans sa vie. Et donc Jean-Marie arrive un jour chez Lucas en lui disant voilà, je suis chargé par mon père qui vient de mourir dans un accident de voiture de remettre à votre mère une lettre d'amour, des fleurs et de l'argent, parce qu'en fait le testament post-mortem du père de Jean-Marie, c'est va retrouver toutes les femmes qui ont compté dans ma vie. Et là c'est terrible, parce qu'en fait le truc c'est que Jean-Marie en fait est le fils d'un député qui est un député de la droite bien à droite, on va dire.
Et bien pensante.
Et bien pensante. Et donc, le père de Jean-Marie est un garçon qui avait milité contre l'avortement, contre le PAC. Enfin, c'est une espèce de réac terrible. Et en fait, on va s'apercevoir par son testament que ce type était totalement, pas dépravé, mais qu'il avait goûté à tous les plaisirs de la vie plusieurs fois, quoi.
Et son fils va essayer de suivre sa trace, mais c'est pas si évident que ça. Affublé donc de Lucas Rosarian, puisque lui pense que peut-être c'est son géniteur, on ne sait pas.
Voilà.
Et ils vont partir tous les deux au volant d'une très belle bagnole. Ouais. Pas la Jaguar, parce que la pauvre, elle a fait un vol plané dès le premier chapitre du roman.
Elle a eu du mal au début. Mais c'est vrai qu'en fait, ils vont faire une espèce de tour de France dans une espèce de 4x4 Porsche, dernier modèle. Luxueux, à 250 à l'heure.
Ce qui est totalement interdit, monsieur Carrez, je vous le rappelle.
Ouais, ouais,
totalement.
C'est totalement interdit, mais comme Jean-Marie en fait a des amis au ministère de l'Intérieur, en fait il fait sauter ses.
Dites pas que ça existe, ce genre de choses.
Non, mais je pense que là, c'est de la fiction en fait. Là, je pense
c'est de la fiction.
Nous sommes en pleine fiction.
Alors. Une des caractéristiques, je trouve personnellement, dans vos romans, c'est il y a toujours des personnages plus qu'en couleur, et c'est pas parce qu'ils sont méditerranéens, ils ont toujours des caractères et des choses improbables qui leur arrivent. Ouais. Moi, je me souviens d'un personnage absolument magnifique dans Graines de courge. Alors, quand vous pensez les idées d'un roman, est-ce que c'est plutôt les personnages qui viennent d'abord ou plutôt l'histoire?
Je sais pas. En fait, je me suis jamais posé. Je pense que c'est plutôt l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, j'ai envie de raconter une histoire autour, alors, ou d'un sujet de société, ou d'une histoire qui me vient en tête. Par exemple, l'histoire des veuves gigognes. En fait, j'ai imaginé cette histoire, en fait, le jour de l'enterrement d'un oncle à moi. Donc, oui, c'est simplement parce qu'en fait, j'ai commencé à imaginer la vie dissolue que pouvait avoir éventuellement cet homme.
C'est une jolie dernière pensée pour lui.
Voilà, c'est ça. Et en fait, souvent, c'est une idée où je me dis, tiens, si j'écrivais une histoire autour de ce thème-là. Et ensuite, les personnages arrivent et je développe les personnages pendant l'écriture du roman. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui viennent en cours de route. C'est-à-dire que je me fais une espèce de plan dans ma tête de ce à quoi va ressembler l'histoire. C'est-à-dire que j'ai le début, la fin, le milieu, les séquences fortes, je vois à peu près où je vais aller. Et après, je me laisse vraiment guider par mes personnages et je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, dans quasiment tous les romans, il y a eu pas mal de scènes qui sont venues, ne serait-ce que par la logique du fonctionnement des personnages les uns par rapport aux autres, et du coup, je me laisse vraiment l'opportunité de trouver plein de trucs en cours de route, en sachant que je vais quand même toujours au bout de mon idée. Et ce qui est marrant, c'est que pour les veuves gigognes, bon, je raconterai pas la fin, mais le tout dernier retournement des veuves gigognes m'est venu au moment où je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le roman s'arrêtait une dizaine de pages avant la fin.
D'accord.
Et quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, putain, mais que je suis con, c'est évident que c'est ça. Et voilà.
Et il y a eu 10 pages de plus.
Et
d'ailleurs, c'est une partie du roman qui se passe plus dans notre région à nous, puisque c'est plus.
Absolument, ouais. Alors ça c'est un truc qui est aussi assez marrant, c'est que bon, moi je continue à faire mon métier de réalisateur pour la télévision, et il se trouve qu'en fait il y a depuis 4-5 ans, j'ai fait pas mal de documentaires dans le haut pays niçois, dans la vallée du Mercantour, dans le haut Var, tout ça. Et en fait, je me sers systématiquement en fait mon travail de réalisateur me sert de repérage pour les romans, quoi. Ce qui fait que j'avais fait tout un documentaire sur la Vallée des Merveilles, par exemple, et là, ça m'a énormément servi pour raconter toute la partie qui se passe dans la Vallée des Merveilles, justement.
Oui, en dehors des lieux, je suppose aussi que les personnages, parce que c'est une question, je sais qu'on vous la pose assez souvent, mais on va être assez banal, quoi. C'est vrai qu'on vous demande certainement souvent, et quand même, cette façon de parler, ces personnages, mais en fait, finalement, c'est exactement ce qu'on voit quand on se balade sur les trottoirs de Marseille.
Absolument. Moi, j'ai pas l'impression de caricaturer. En plus, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est que souvent, on me dit, oh, vos personnages, ils sont trop. Mais en fait, ils sont pas trop, ils sont comme ça. Enfin, je veux dire, des Jean-Marie de Saint-Chamond, j'en ai vu, et qui parlent exactement ça, et même, à la limite, j'ai même gommé un petit peu le côté trop.
Oui,
c'est marrant parce que
sérieux,
souvent, dans mes romans, je me suis retrouvé à gommer, justement, les côtés trop exagérés, et malgré tout, ça fait encore trop, quoi. Enfin, ça fait encore trop. Pour moi, ça me
va
très
bien. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire, puis il y a toute cette histoire de la veine marseillaise que l'on n'évoquera pas aujourd'hui, ouais. Parce qu'on en a marre d'entendre ce discours-là, ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend souvent. Alors, deuxième, troisième, je ne sais plus à la combien de facettes de vos talents on est, les polars pour la jeunesse aussi.
Alors voilà, c'est une collection que j'ai... Enfin, moi j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, ça, parce qu'en fait c'est un univers qui m'effrayait un peu, c'est-à-dire que l'univers des enfants et l'univers de la jeunesse, c'est pas trop mon truc. Je dois dire.
Et donc, je crois que vous en êtes au deuxième. Donc, il y a eu La Grotte de l'Aviateur.
Il y a eu La Grotte de l'Aviateur qui est sortie chez Souris Noire il y a 2 ans. Il y a Le Vol de la Momie.
Le Vol de la Momie.
Qui est sorti au printemps dernier, au mois de mai dernier. Et là, il y en a un troisième de cette série qui va sortir en principe au printemps, qui s'appelle Le Scénario de la Mort.
Et qui se passe toujours avec le même groupe de personnages.
Alors en fait, c'est un peu la première fois que j'utilise des personnages récurrents. C'est-à-dire que, autant sur les romans pour adultes, en fait, à part Lucas Rosarian, qu'on retrouve sur 2 ou 3 romans, mais pas plus, j'ai essayé de faire chaque fois des choses différentes. Autant, là, dans les romans pour les enfants, enfin pour les ados, ce qui m'intéresse, en fait, j'ai pris une classe de 3e. J'ai pris des gamins d'une classe de collège, de 3e. Et le but de la série que j'essaie de décrire, c'est de voir l'évolution de ces gamins sur une année scolaire. Donc, La Grotte de l'Aviateur, qui est le premier roman, se passait le jour de la rentrée, ou à peu près. Le deuxième, qui s'appelle Le Vol de la Momie, se passe fin octobre. Le troisième qui va sortir se passe...
On va être en plein hiver, là.
Voilà, ça commence à être l'hiver. Et l'idée, comme ça, c'est de faire 7 ou 8 romans qui vont se passer sur une année scolaire, et je lâcherai mes gamins au moment où ils vont passer en seconde, c'est-à-dire...
C'est pas très sympa de les lâcher pour le lycée, quand même. Ils ont encore besoin, ces pauvres petits.
Ils ont encore besoin, mais ce qui est très marrant, c'est que moi, je sais que j'ai 3 fils, hein, donc j'ai bien vu comment ça s'est passé quand ils sont arrivés en 3e, les 3. C'est le moment où, en fait, les gamins passent de bébé à adulte, quoi.
Et c'est vraiment intéressant. Ils préviennent
vraiment,
pas, là.
C'est une année charnière qui est vraiment intéressante à analyser, ce qui fait que dans tous mes personnages de gamins, bon, on suit une classe, hein, donc il y a 5 ou 6 personnages principaux, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils vont pas évoluer tous à la même vitesse.
Oui, c'est les espèces de 6 compagnons, mais voilà. de nos jours, quoi.
C'est ça, c'est un peu ça. Alors, c'est marrant parce qu'en plus de ça, on m'a dit, ouais, c'est le Club des 5, ton truc. Ok, pas de problème. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais lu le Club des 5. Mais effectivement, je vois très bien ce que ça peut être, quoi.
Non, mais c'est vrai, bon, c'est vrai qu'on y pense forcément parce que certains d'entre nous ont été quand même un petit peu baignés par la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte.
Ouais.
Et c'est vrai que, on est content de voir se renouveler le genre parce que justement, ces petits groupes d'adolescents qui faisaient des enquêtes vraiment avec des pincettes. Ouais. Là, dans Le Vol de la Momie, j'ai été au départ étonnée et pas du tout choquée. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir.
Ouais.
C'est de trouver une réalité violente. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur qu'un type passe par la fenêtre ou que des fois, on s'interdit des choses parce que c'est des jeunes qui vont les lire.
Et en fait, moi, je sais que les réactions que j'ai eues de l'éditeur, justement, Souris Noire, et de ma directrice de collection sur cette collection-là, qui s'appelle Nathalie Bonin, et qui avant était chez Fleuve Noir, en fait, elle m'a dit, tu peux y aller, tu peux même écrire des choses assez violentes. Le truc, c'est qu'en fait, les gamins, il ne faut pas les prendre pour des cons. C'est-à-dire que si on sent qu'on les prend pour des cons, ils décrochent. Et par contre, ils sont prêts à lire des choses assez rudes même. Et je trouve même que dans ce que j'ai écrit, c'est finalement pas si raide que ça. Je sais que dans la collection Souris Noires et dans la collection Rat Noir, qui est donc une collection pour des gamins un poil plus âgés,
un petit peu plus âgés, oui.
Il y a des choses qui sont autrement plus violentes que ce que j'ai écrit.
Tout à fait. Mais c'est une des collections qui commence à d'ailleurs à devenir une des collections mythiques du polar jeunesse. Uh-huh. Et c'est vrai que cette directrice de collection, c'est la crème en plus, Nathalie Benat.
Il faut dire que c'est bien parce que les enfants, là, ils mangent de la pizza, ils ont des téléphones portables, ils ont des problèmes avec le père, avec la mère.
Ah bah oui.
C'est pas des enfants martiens qui sortent.
Voilà, c'est des enfants bien de notre époque, quoi.
Absolument, oui, non, c'est ça. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que donc là, je viens de finir d'écrire le troisième, qui devrait sortir d'ici, je pense, au mois de mars, au mois d'avril. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai écrit ce roman à peu près 15 jours avant les émeutes des banlieues cet automne. Et en fait, ça raconte ça, mais à Marseille. Et il y a plein de trucs qu'il a fallu que je réécrive, parce qu'en fait, j'étais tellement dans l'actualité que d'un seul coup, je me suis dit, oh là, je vais me faire traiter de récupérateur, donc il faut absolument que je change des choses. Mais on était vraiment là-dedans, quoi. On était vraiment là-dedans, et c'est d'autant plus paradoxal qu'à Marseille, à l'automne, en fait, il y a eu la révolte des banlieues ailleurs, mais à Marseille, il s'est rien passé, quoi.
Eh bien, il se passera dans le livre.
Et voilà.
Voilà. Alors, avant-dernière facette qu'on va évoquer un petit peu rapidement, parce que l'heure tourne, réalisateur,
ouais,
et en particulier deux mots sur Liberata.
Ouais.
Donc, j'annonce en VO Corse.
Ouais.
C'est un peu succinct, mais c'est quand même ça. Si elle vient d'avoir un premier prix à Saint-Tropez,
ouais, au Festival de la Fiction télévision de Saint-Tropez en septembre.
Voilà, donc c'est un film qui est passé sur FR3.
FR3 Méditerranée.
France 3 Méditerranée, il est passé il y a à peu près un mois. France 3 Corse, il est passé il y a deux mois. On a fait un très très bon score.
En
fait,
j'ai entendu dire qu'il y avait un petit circuit où il circulait.
Alors, ce qui va se passer, effectivement, c'est un film qui devrait sortir en salle dans un petit circuit de distribution de cinéma. Je pense que ça va sortir fin février, début mars. C'est un film en fait, qui raconte une partie de l'histoire récente qu'on ne connaît pas très bien. C'est la résistance corse face à l'occupant italien. C'est-à-dire qu'en fait, en 1942, les Italiens, Mussolini a envoyé ses soldats occuper la Corse. Et il y a eu une résistance corse qui s'est organisée et ça raconte un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire comment la résistance s'est organisée, et c'est une histoire d'amitié, en fait, entre deux soldats italiens et deux frères corses qui essaient d'organiser la résistance en Balagne. C'est fait à partir d'éléments réels historiques, mais c'est une histoire de fiction totale. Et ce film, donc, c'est un film qu'on a tourné au mois d'avril dernier, et c'est un film qui ressemble un peu aux comédies italiennes des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, on est sans arrêt entre le drame et le film plutôt drôle. Et effectivement, la particularité de ce film, c'est qu'en fait, les protagonistes jouent dans leur langue. C'est-à-dire que les Corses jouent en Corse, les Italiens jouent en Italien, c'est des vrais comédiens italiens. Les Corses sont de vrais comédiens corses. Il y a un ou deux comédiens français qui se retrouvent là au milieu parce que c'est des résistants débarqués en Corse et qui comprennent rien aux Corses. Et le scénario joue là-dessus. C'est-à-dire que le scénario joue sur le fait que ben, les Italiens comprennent les Corses quand ils se parlent en Corse, mais par contre, les Italiens ne comprennent pas les Français quand ils parlent en français. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la première consigne de la résistance corse, lorsque les occupants italiens ont envahi la Corse, ça a été, à partir de maintenant, on ne parle plus corse, on parle français, parce que sinon, les Italiens vont nous comprendre.
Et j'ai appris en regardant ce film que Ajaccio, ça avait été la première ville libérée de France, que je ne savais pas du tout.
Et oui, ça, il y a plein de gens qui sont persuadés que la première ville française libérée, ça a été quand? Après le débarquement en Normandie, mais en fait, la première ville libérée, ça a été en septembre 43 et ça a été Ajaccio. Puisqu'en fait, la Corse a servi de porte-avions géant aux forces alliées pour aller d'une part en Italie et d'autre part préparer le débarquement de Provence.
En tout cas, les acteurs italiens, ils parlent italien et en plus, il y en a un qui est beau quand même.
Ah,
le plus beau acteur italien que j'ai jamais vu. En tout cas, c'est un très très beau film. Moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est l'histoire d'amitié.
Oui, absolument.
Une jolie histoire d'amour aussi. Mm-hmm. Des scènes d'une drôlerie avec toujours beaucoup de tendresse et une poésie absolument fantastique. Et honnêtement, j'y allais un petit peu à reculons parce que cette VO Corse me semblait un peu bizarre au départ, comme ça me semblait pas évident. Et ça passe tout seul, c'est magnifique, vraiment, c'est viser les programmes des cinémas aux alentours parce que ce serait bien que ce film ait une vie cinématographique. Alors,
cela dit, ce film va avoir une vie. Bon, on sait que le DVD devrait sortir au printemps et en fait, il devrait y avoir une diffusion sur France 3 National, je pense, cet été en prime time. Donc ce film, enfin, on va quand même avoir l'occasion de le voir, quoi.
Bon, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi au générique il y avait le dresseur d'oursin, mais on va m'expliquer bientôt.
Oula, c'est compliqué.
Bon, vous avez trop mangé, en fait, je pense, sur le
tournage. Ça a été terrible. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est qu'on faisait, dans la journée, on faisait le tournage, et le soir, on faisait table d'hôte. C'est-à-dire qu'en fait.
Oui, c'est pour ça que le dresseur de table d'hôte est aussi remercié au générique.
Voilà, absolument. C'est le producteur. Donc,
Dernière facette, avant de se quitter. Ouais. Vous jouez du jazz, vous êtes musicien, et puis vous écrivez des paroles de chansons. C'est comme ça qu'on va pouvoir écouter. Donc, c'est Jacques qui va nous en parler.
Non, ben là, en fait, les paroles ont été écrites par Patrick Reynal, qui est aussi un auteur de polar. Et la musique, c'est un genre de blues parlé. Et la musique, donc, a été écrite par vous dans un album de blues qu'avaient fait Patrick Reynal et Jean-Bernard Pouille,
il y a quelques années.
Alors, ça vous titille toujours de faire un disque de...
Bon, de faire un disque, je ne sais pas. De faire de la musique, j'en fais toujours, parce que ça fait partie... Enfin, moi, je sais que quand j'étais gamin, il y avait deux choses qui me passionnaient, c'était le cinéma et la musique. Bon, j'ai fait du cinéma comme professionnel.
Il y en a qui ont fait de la musique de film.
Et je fais de la musique aussi. Par exemple, la musique de Liberata, une grosse partie de la musique, c'est moi qui l'ai faite. En tant que compositeur, c'est vrai que ce sont des activités que je continue à exercer, parce que ça fait partie. La musique est vraiment une composante de ma vie essentielle, quoi. Donc, je fais de la musique, mes enfants en font. Disons que j'essaie de garder en plus le côté ludique de la musique le plus possible. Donc, c'est vrai que je fais pas mal de jazz, je fais pas mal de musique afro-cubaine aussi. Ça c'est vraiment une partie très intime et essentielle par rapport à mon fonctionnement, quoi.
Et d'ailleurs, je reviens un petit peu à la littérature. Dans la plupart de vos romans, il y a aussi une musique, il y a un rythme. Rythme en dehors du rythme des mots, il y a on a l'impression souvent que il y a des comme dans la musique classique, en fait il y a une fugue et puis il y a toujours la musique en fond, même si on en parle pas énormément en fait réellement dans le livre, quoi.
C'est vrai qu'en fait jusqu'à présent je me suis pas vraiment beaucoup servi de mes connaissances et de ma culture global sur la musique. Il y a un roman sur lequel je m'en étais pas mal servi, qui s'appelle Une belle histoire d'amour, où en fait le protagoniste principal est un pianiste de jazz qui a raté sa vie et qui est totalement suicidaire. Et il y a énormément de références au jazz dans ce roman-là, effectivement.
C'est celui-là où il y a le gong, un grand gong qui dévale toute la canebière.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est
je me souviens, le gag m'avait...
Mais Philippe Carrez, on va donc écouter votre musique.
Oui.
Un grand merci pour
merci
ce temps passé avec nous.
Mm-hmm.
Et puis à très bientôt.
Ah bah oui, volontiers.
Et donc le morceau s'appelle Notre-Dame de la Bavure.
Ouais.
Philippe Carrez joue la guitare, a composé la musique. Et Patrick Reynal en a fait le texte.
En a fait le texte et parle.
Et les paroles.
Au revoir.
Merci beaucoup.